se met dans cette vraiment un frappant, et qui nie du dedans, de sa connaissance des choses dont il parle, alors lui s'est mis dans ce cas. Mais celui qui a des idées, qui pense comme ça, ça c'est pas grave. Et simplement, il a des idées, il pense comme ça. On le met pas dans le cas de la Mishnah. Vous avez compris quelle est la tendance de la vie. Est-ce que c'est clair? C'est la raison pour laquelle les rabbins, enfin qui savent de quoi ils parlent, interdisent qu'on traite quelqu'un de l'apicurus. Parce que ça voudrait dire qu'on le met dans le cas de cette Mishnah. Vous comprenez? Alors, je sais très bien qu'aujourd'hui, les juifs pieux, orthodoxes, ont donc ça à la bouche. Quoi? Apicurus, apicurus. Mais c'est interdit, parce que pour être apicurus, il faut être Talmid Chacham. Vous comprenez ce que je veux dire? Et un vrai Talmid Chacham, il n'est pas apicurus. Ça y est, c'est clair? Ça veut dire que ça ne peut être que des cas extrêmement, extrêmement, extrêmement limités. Et c'est pourquoi on les compte sur les doigts de la main. Vous avez vu quelle est la tendance de l'enseignement ici? Est-ce que c'est clair? Oui. Je me rappelle, quand j'ai étudié ces questions dans le Mishneh Torah du Rambam, dans l'Hilchot Mamrim, avec le Rav Kook, je lui ai posé la question, mais est-ce que de nos jours, il y en a un comme ça, d'apicurus? Alors il m'a dit, je ne comprends pas très bien ta question. Est-ce que tu veux dire qu'il y a un Talmid Chacham ou un apicurus? Alors, il a réfléchi, il m'a dit, il y en a un, peut-être, il m'a donné son nom. Alors, c'est moi qui lui ai demandé. Quand tu as dit peut-être, c'était peut-être Talmid Chacham ou peut-être apicurus. Donc, pour vous dire à quel point, c'est sérieux, c'est pas une blague. Je lui ai posé la question de notre temps, il y en a un, peut-être. Et il m'a expliqué qui ça peut être. Un, alors que, comment dire, n'importe quel barbu de Meacharim vous dira que les 90% du pays, c'est les apicurus. Vous voyez ce que je veux dire? Méfiez-vous de ça, okay? Ça veut dire la règle est de considérer les gens comme irresponsables, pas dans le sens négatif, mais de ne pas être dans le cas naturel d'être responsable de ces choses-là. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des générations anormales. Est-ce que c'est clair? Les Juifs ont mis 300 ans pour s'assimiler, c'est pas en un coup de cuillère à peau qu'on va les remettre au jugement comme ils devraient être. Vous comprenez le problème? Il y a une expression du Talmud qui est très claire, on appelle ça « tinok shenishba ». C'est comme un bébé qui a été volé par des saltimbanques et 30 ans après on l'a retrouvé. Est-ce qu'on va le juger d'après la loi de sa tribu? Il vient de la tribu des saltimbanques, les goyim. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est le cas de tous les juifs qui ne sont pas de culture hébraïque. Et étant donné qu'ils sont de culture goy, alors ils ont des idées, ils pensent, ils disent ce qu'ils pensent, est-ce qu'on va les juger là-dessus? Ils ne sont pas responsables. Ils sont irresponsables. Est-ce que vous avez compris le problème? Donc méfiez-vous. Si vous entendez un juif dire des bêtises, bon, prenez acte, il a dit une bêtise. Ça lui passera avant qu'il se marie. Il vaut mieux. Hein? Sinon, il va fabriquer des enfants à bêtises. Ça y est, c'est clair le problème. Sauf le cas de celui qui dit c'est ça que la Torah dit. Ça, c'est un cas particulier qu'on appelle Zaken Mamré. Ça veut dire celui qui est Zaken, mais Mamré, rebelle. C'est-à-dire, celui qui a des idées, on ne va pas le juger pour ça. Simplement, on prend acte, il ne sait pas de quoi il parle, c'est tout. Mais celui qui dit, qui au nom de la Torah, enseigne que la Torah dit cela, et c'est une hérésie, lui, est dans le cas d'être celui. C'est clair? Vous comprenez bien la différence? Est-ce que c'est bien clair?
Il y en a pas mal comme ça?
Ça, j'ai pas dit. C'est toi qui l'as dit.
C'est une question?
Ne me mets pas dans le cadre.
Pourquoi dans la tradition a-t-on employé ce terme grec, apicurus?
Tout simplement parce que c'était l'idéologie, enfin la philosophie dominante de l'époque qui formulait cette idée que le monde n'est qu'un ensemble de lois naturelles. Ça voulait dire à la manière des épicuriens. Celui qui pense comme l'idéologie d'Épicure. Mais je vous ouvre une petite parenthèse de l'histoire de la philosophie. Aujourd'hui, dans la langue courante, lorsqu'on dit épicurien, on se réfère à une toute autre école que celle d'Épicure. Il y a eu, dans l'histoire, des épicuriens qui sont devenus comme ça, mais en réalité, il s'agit d'une toute autre école philosophique qui s'appelle l'école d'Aristippe de Cyrène. On les appelle les cyrénaïques. Ceux qui définissaient l'objet de la vie comme étant la jouissance des plaisirs matériels. Ce n'est pas les épicuriens. Les épicuriens étymologiques, les épicuriens de l'origine étaient des ascètes, des intellectuels ascètes. mais qu'il pensait que le monde n'est qu'un mécanisme de loi naturelle. Et aujourd'hui, on se sert de ce terme apicorose pour dire n'importe quoi. Mais sachez que d'après la halakha, c'est interdit de traiter quelqu'un d'apicorose s'il n'est pas, d'autre part, un talmid chacham, mais qui expose le système d'Épicure au nom de la Torah. Alors là, on l'appelle apicorose, qui rentre dans cette machine. C'est clair ? Bon, est-ce qu'il reste une question ?
Oui, mais enfin, je n'ai pas vraiment complètement dans le sujet. Je veux savoir si toutes ces notions de l'âme bas, de résurrection du mort,
de triatamédine,
est-ce qu'elle n'entrave pas, je ne sais pas si j'ai pas bien expliqué, le fait que le juif peut ne pas vouloir améliorer l'âme bas ?
C'est tout le contraire. C'est tout le contraire, parce que c'est tout le contraire, parce que nous avons une Torah de mitzvot dont l'objectif est de faire que le Olam Hazé s'améliore. En tout cas, ta question ne se pose absolument pas par rapport au problème moral.
Pas par rapport au problème moral, par rapport au problème de l'État, par rapport au problème du travail.
Eh bien, c'est toute la controverse que la tradition juive authentique a eue et continue à avoir par ce qui la ressemble avec les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils font du judaïsme une religion d'ascétisme retirée de la société humaine. Et aujourd'hui, le problème urgent, c'est, en tout cas pour nous, juifs de la génération actuelle, la construction de l'État d'Israël, de la société israélienne. C'est-à-dire ceux qui veulent vivre la Torah en dehors du peuple juif, sur sa terre, et ceux-là sont déjà dans le cas d'eux. Bon, mais je vous ai parlé de la règle tout à l'heure, on attend jusqu'au bout. Déjà, d'être autre chose que l'histoire d'Israël. Vous comprenez ? Ce qui érige la Torah en religion greffée sur l'histoire d'une société qui pourrait être goy. Vous comprenez le problème ? Par exemple, il y a dans la Torah les mitzvot concernant la moralité, les mitzvot concernant la sainteté personnelle, et il y a les mitzvot concernant la construction du monde. Ces mitzvot-là, ils ferment les yeux. Vous avez compris le problème ? Et je dirais même plus. C'est-à-dire que seuls les hommes, et à partir de la diffusion de l'enseignement de la Bible, ça a imprégné plus ou moins énormément de courants, seuls les hommes qui sont traversés par cet optimisme que ce monde-ci mène à un monde à venir, ont la motivation nécessaire pour faire que le monde change dans le sens positif du problème moral. Parce qu'il n'y a en réalité pas d'autres problèmes. Sérieux. Tous les problèmes techniques de l'aménagement technique du monde sont seconds par rapport au problème moral. Il suffirait que la moralité avance d'un cran pour que la planète se transforme de façon accélérée en un paradis sur Terre. Parce que l'humanité a suffisamment de moyens scientifiques et techniques pour le faire. Qu'est-ce qui empêche l'immoralité ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je vous donne un tout petit exemple. Le problème de la faim dans le monde. C'est un problème très grave. Il est possible que la situation actuelle capote là-dessus. Or, il y a suffisamment de capacités scientifiques et techniques pour que tout le monde mange à sa faim. Mais pourquoi ce n'est pas le cas ? Parce que l'immoralité n'est pas. La moralité n'est pas suffisante. Vous comprenez ? Je vous dirais même plus des problèmes de temps messianique comme la mort biologique, c'est à la portée de l'homme. Si la moralité des humains. Enfin, ne serait-ce que la guérison des maladies soi-disant incurables. Je vous dis des choses élémentaires. Si les nations du monde consacraient leur budget militaire à la recherche contre le cancer, il y a longtemps que le cancer serait régulé. Même, je vous dirais quelque chose de qui va vous paraître drôle. Il n'y a pas suffisamment de budget pour trouver un remède efficace contre le rhume. Vous savez qu'on n'a pas de remède contre le rhume. Et on pourrait arriver à... Vous lisez la science-fiction ? Oui ? Mais tout ça, c'est le midrash du temps qui vient. Et il y a dans les romans de science-fiction énormément de choses qui sont dans le midrash. dans un vocabulaire différent. Mais comme vous savez, il y a des midrashs cachés et des midrashs pas cachés. Et ne croyez pas que c'est pas, que c'est par hasard, que c'est par hasard que la science-fiction a tellement de, empoigne tellement le, la situation contemporaine, et en particulier chez les enfants avec les bandes dessinées et tout cela, c'est la mythologie des temps scientifiques. Bon, mais tout ce dont parle la science-fiction, c'est réel selon le Midrash. Le Zohar dit, il arrivera un temps où les secrets de la Torah seront dans la bouche des enfants. C'est pas autre chose que ce dont je vous parle. Les gosses lisant les bandes dessinées, lisent les secrets de la Torah. Vous allez me dire, c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Bien. Alors, on va quand même s'arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce qu'il reste une question? J'en vois qui dorment déjà. Si vous n'avez pas de questions, c'est que vous dormez. Vous connaissez cette histoire des yeshivot de Lituanie? Il y avait un bachour yeshiva très intelligent. Toutes les nuits, il ne laissait pas dormir ses camarades. Il errait dans les couloirs, pas en jouant de la guitare, mais en disant qui a une question? Donnez-moi, pour l'amour de Dieu, une question. Moi, j'ai des réponses. Quelle?
Finalement, celui qui ne respecte pas le Tanakh, c'est normal qu'il ne respecte pas Dieu.
Parce que d'où il s'est créé un Dieu qui existe?
Parce que c'est au travers du...
Sinon, on tombe sur le problème. Quel Talmid Raham?
Le Talmid Raham. La question est autre. Qui est Talmid Raham? C'est autre chose. Qui est Talmid Raham et Talmid Raham? Je vais vous dire, il faut toujours recourir à l'étymologie. Le Talmid Raham, c'est le Talmid d'un Raham. Pas plus compliqué que ça. Vous avez compris, je dis. Il faut bien comprendre que nous vivons dans un temps de chaos absolu. Okay. Vous pouvez avoir des gens qui vous diront au nom de la Torah le contraire de ce qui est écrit dans la Torah. Méfiez-vous de ces gens-là. Okay. Dieu a dit comme ça, et eux ils disent autre chose. Tout est nul. Ça existe. Comment, mais Dieu a dit comme ça? Ah oui, non, oui, tu comprends, le gouvernement, il n'est pas religieux, alors on ne peut pas dire ça. Par exemple, je vous donne un exemple, parce que vraiment, ça ne me passe pas. Vous savez que le jour de Yom HaTzmaout, on dit le Hallel avec Bracha. Il y a des gens très pieux qui disent le Hallel, mais sans Bracha. Et alors, je ne parle même pas des gens qui ne disent pas le Hallel. J'en ai entendu un, ce Yom HaTzmaout, qui a fait un long discours pour expliquer que c'est un miracle qui est arrivé, que nous ayons l'État d'Israël. Et il enchaîne avec le Hallel sans Bracha. Alors je suis allé lui demander, tu crois pas qu'il y a une contradiction entre les deux? Il dit, oui, mais tu comprends, le gouvernement, c'est un gouvernement chiloni, alors on ne peut pas dire le Bracha. Ouais, ouais, bon, comment on peut devenir fou? Quel rapport? Il faut dire deux brachos. Avec un gouvernement chiloni, on a eu le miracle. Deux brachos. Oui, attends, ça me rappelle une discussion que j'ai eue un jour avec un curé. Le curé m'a dit, c'est extraordinaire ce qui se passe en Israël, mais pourquoi ils ne sont pas religieux? Alors j'ai dit, d'abord c'est une calomnie, et puis je vais vous raconter en quoi ils sont religieux, comment ils sont religieux. Je dis, si c'était des gens croyants qui avaient fondé l'État d'Israël, remarquez, il y avait aussi des croyants, okay, des croyants officiels, mais si c'était des gens croyants qui avaient fondé l'État d'Israël, on se serait dit, voilà, c'est un peuple qui a cru pendant 2000 ans une chose. Et un jour il s'est dit, zut, je vais le faire. Et la foi bouleverse les montagnes, on se serait dit, bon, c'est des juifs qui ont fait ça, c'est une œuvre humaine. Ils croient en quelque chose, ils l'ont fait. Mais imaginez que c'est des gens qui ne croyaient pas qu'ils l'ont fait. Alors ça veut dire que c'est Dieu qui l'a fait. Est-ce que c'est clair? Donc on est tranquille. Si Ben Gurion mangeait cachère, on aurait des doutes. Mais comme Ben Gurion ne mangeait pas cachère, on est tranquille, c'est Dieu qui a fait.
Alors,
Ne croyez pas que c'est une blague.
Est-ce que les gens qui se suicident enlèvent le droit au...
Oui, c'est très grave. Parce que c'est grave. Et bon, ça va de soi, si tu ne comprends pas pourquoi c'est grave. C'est pire qu'un meurtre. Hein? C'est pire que tuer quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle c'est tellement grave. Et parce que non seulement ça leur enlève la main bas, mais ça les mène quelque part que je ne souhaite pas de savoir ce que c'est. Et que les tribunaux rabbiniques, quand ils apprennent qu'il y a un suicide, font une expertise pour avoir n'importe quel témoignage qu'il était malade. Alors on le gracie. On l'enterre comme les autres. D'Arcadie, je crois. Vous comprenez ? Parce qu'à partir du moment où quelqu'un en arrive là, à se suicider, c'est qu'il est très malade. D'ailleurs, en général, un acte de suicide, c'est en réalité d'abord un appel au secours. Attention, empêchez-moi.
On avait commencé le cours en parlant du livre Sanhédrin et qu'il traitait donc de la juridiction et dans sa partie finale de la peine de mort.
Oui.
Pourquoi ? Je comprends que également. Enfin, je crois comprendre que, également, la tendance est d'avoir le moins possible recours à la peine de mort.
Et actuellement, c'est interdit. C'est interdit de condamner à mort. Je vous ai expliqué pourquoi. Oui. Non, je rappelle, pour ceux qui ne se rappellent pas. C'est-à-dire qu'il y a déjà très longtemps, les Tanaïm ont décidé qu'on condamne plus à mort. Parce que quand ce n'était que des cas particuliers, vraiment de perversion totale, et que la loi était souveraine, que les gens se comportaient comme des tzaddikim, qu'il y avait des cas exceptionnels où la loi s'applique, alors la peine de mort, ça avait un sens. À partir du moment où les cas où il faudrait condamner à mort se multiplient, c'est qu'il y a une chute de la moralité et qu'on ne peut plus appliquer la sanction à ce niveau-là. C'est clair. Sauf dans des cas extrêmement exceptionnels. Je vous ai même dit, cette semaine, il y a eu un débat, d'ailleurs aujourd'hui même, enfin hier, à la Knesset concernant la proposition de loi de Begin après Naharia. Et oui, je crois que je vous en ai parlé de cela. Et en fait, d'après ce que je connais du problème, même il s'agit de ces assassins, des assassins d'enfants, et vous savez ce que font ces gens-là, que personnellement, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais dit ce que je sais, c'est que il ne faut pas, même ça, il ne faut pas condamner à mort. Tout ce qu'on peut faire, c'est ne pas faire prisonnier, ça c'est autre chose. Mais de sang-froid, condamner à mort et exécuter quelqu'un dans l'état de moralité actuel du monde, à un certain moment, niveau de saturation, tous les crimes sont au-delà de tous. Vous comprenez, il faudrait condamner à mort les trois quarts de la planète. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais il y a une raison supplémentaire pour ce cas-là, c'est que finalement, le gorem, comment on dit, le facteur qui mène les terroristes à devenir assassins en Israël, c'est leur amour d'Eret Israël. C'est clair. Un amour diabolique, c'est clair aussi. Mais enfin, c'est leur zika à Eret Israël. Et tant qu'il y a un seul juif qui vit en dehors d'Eret Israël, on n'a pas le droit de condamner un arabe à mort parce qu'il veut Eret Israël. Vous comprenez le coup ? C'est encore une autre dimension du problème. Mais d'une façon générale, la condamnation à mort est plus exceptionnel dans l'agitation talmudique.
Justement, comment se fait-il que dans la Torah, et en tout cas dans les textes qui parlent de la législation, nous trouvons tellement de cas avec une apparente facilité
Parce que la Torah parle au niveau d'authenticité humaine où nous devrions être. C'est la tradition orale qui établit la halakha au niveau où nous sommes. La Torah parle de l'homme authentique. Alors elle dit comment est la loi. Et ce n'est que la halakha qui peut établir et comment est la loi pour nous. Vous comprenez le problème ? Je vous donne un exemple. Dans la Torah, il y a les lois de la kashrout. Et la Torah le dit très clairement. Celui qui mange comme ça vivra, celui qui ne mange pas comme ça mourra. On voit des tas de juifs qui ne mangent pas kasher et qui ne meurent pas. Pourquoi ? Parce que nous ne sommes plus que dilués par rapport à l'impact de ces réalités. Ça veut dire qu'il y a une mort infinitésimale. Et en fin de compte, ça joue à un autre niveau. Mais nous ne sommes plus à ce niveau de sainteté qui ferait que avaler un aliment pas cachère, ça tue. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Mais
c'est parallèle.
À travers quelle autorité les Chachamim de la Halakha justement atténuent-ils les peines imposées par...
Il y a un pléonasme dans ta question. C'est ça leur autorité. C'est pas au nom de quelle autorité, c'est ça leur autorité. C'est la Torah qui institue que c'est l'autorité du temps qui doit décider quelle est la sanction.
Et est-ce que... Est-ce
t'es
que...
Compris, oui, c'est ça leur autorité.
Mais justement, comment surmonte-t-il une apparente transgression des lois, de la loi?
Mais je vais vous dire une chose.
Tanakhi.
Oui. Pas Tanakhi, de la Torah Shebichtav. Hein, c'est la Torah Shebealpé qui garantit la Torah Shebichtav et pas l'inverse. Comment nous savons que ce sont ces versets-là qui sont la Torah Shebichtav? C'est la Torah Shebealpé qui nous l'a dit. La Torah Shebealpé nous a dit ça. C'est la Torah Shebichtav et pas l'inverse. Tu comprends? Encore une fois, ce n'est pas des livres desquels on apprend. C'est des hommes qui nous font lire les livres. Israël, c'est un peuple. C'est ni une école, ni une église, ni... Habituez-vous à cela. Okay? Il faut rejoindre la normalité de l'histoire réelle. Dieu, c'est le créateur du monde. Ce n'est pas un fondateur de législation ou de religion. Est-ce que c'est clair? Et d'où je sais que c'est à la Bible? C'est les rabbins qui l'ont mis entre mes mains il y a 2000 ans. Okay? Je pense que c'est clair. C'est-à-dire, la Torah Shebealpé est venue nous dire ça c'est caché, ça c'est pas caché. Ça c'est cadeau, ça c'est pas cadeau. Ça c'est qui te va appeler, ça c'est qui te va appeler. Il y a, en particulier dans la fin du premier chapitre de Bava Kamma, quelqu'un qui vient enseigner par une exégèse de la Torah Shebichtav quelque chose, la même chose que nous savons par tradition orale, en principe on le met à mort. Ça veut dire, il apprend d'un livre ce que moi j'ai appris d'un homme. Il laisse un Sefer Torah vivant pour ouvrir un Sefer Torah mort. Vous comprenez ce que je veux dire? Il ouvre un livre alors que moi j'ai entendu de mon maître. C'est-à-dire qu'il a entendu en fin de compte de Moïse. Et c'est ça la légitimité. C'est pas le livre. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez de l'histoire chassidique que je vous ai racontée un jour? Et vous voyez... Vous percevez l'effort qu'il faut pour décrocher de l'assimilation des juifs de la diaspora, okay, qui ont une relation au judaïsme d'un artificiel dont vous n'avez aucune idée. Le judaïsme de la Gola est devenu livresque. C'est devenu des livres. Et alors, on appelle ça dans la Gemara Hamor Nosse Sfarim, un âne chargé de livres. Enlevez-lui ses livres, il reste un âne. Et alors, ils sont courbés sous le poids des livres. Et vous rappelez cette histoire chassidique? Mais celle-là, comme je me la rappelle, je vais rappeler une autre que je vous ai oubliée. Il y a eu un très grand rave à Jérusalem, dans la génération précédente, qu'on appelait le rave Alfandéry, qui s'appelait le rave Alfandéry. Il y a une rue de Jérusalem qui porte son nom d'ailleurs, le rave Alfandéry. Il a dit quelque chose?
Il y a un traité sur les ruches.
Bon, ça doit être un de la famille. Et alors, ce rave Alfandéry était très pauvre. Et un jour, il a été nommé grand rabbin de la ville. Alors, il a fait dessiner sur le mur de sa chambre une bibliothèque factice. Dessinée, peinte, je vous ai raconté. Alors, on lui a demandé pourquoi tu as dessiné ça. Il a dit, écoute, il y a des juifs qui viennent me poser des questions. S'ils ne voient pas que j'ai des livres, ils ne vont pas croire que je sais. Alors je vais dessiner des livres, comme ça ils croient que je sais. Bon. Non mais l'histoire que je vous rappelle, c'était l'histoire du juif qui est allé chez son tzaddik pour apprendre la Torah. Alors la première question qu'il lui a posée, c'est « Est-ce que tu sais lire ?» Et il a dit « Non, je ne sais pas lire. » Alors on va apprendre. Vous vous rappelez? Alors, il dit « Ça c'est Aleph, et ça c'est Bet. Reviens demain. » Le lendemain, il lui a dit « Ça c'est Bet, et ça c'est Aleph. » Alors le juif a dit non, ça c'est Aleph et ça c'est Bête. Et le rabbin lui a demandé d'où tu sais. Il a dit c'est toi qui m'as dit. Alors il a dit mais c'est la première leçon, c'est ce que je t'ai dit. S'il te plaît, le critère, c'est ce que je t'ai dit. D'où tu sais? Vous avez compris? Vous avez beau avoir des livres. Qui sait qui va lire? Vous avez compris?
J'ai encore une question à propos de...
Déchiffrer les hiéroglyphes. Thèbes, ça ne va pas ressusciter l'Égypte. Vous avez compris quoi? Quel, oui.
À propos de la peine de mort, enfin de ce problème levé, été levé par Begin au moment de l'affaire de Maharia, est-ce que cette opinion qui fait qu'on ne devrait pas appliquer la peine de mort à ces terroristes-là et ne va pas citer les gens, justement, sur le champ de bataille, de leur propre initiative, à créer une sorte de hargne sur le champ de bataille et à inciter les gens à tuer le plus possible de personnes, justement en se disant que la justice légale, elle ne fonctionne pas.
Non, je vais vous dire.
Et c'est peut-être...
Je ne sais pas si j'ai compris ta question. Je vais te dire. Des assassins méritent la mort, mais ce n'est pas à l'État d'Israël d'instaurer la peine de mort. C'est autre chose. On est à la guerre et on se tue. Enfin, c'est la guerre. Mais que l'État d'Israël institue des comment on appelle ça, des potences avec des bourreaux, ça n'existe pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que ce n'est pas cette loi qui empêchera les terroristes de faire ce qu'ils font. Quand un Mechabel arrive en Israël, il sait très bien que s'il est pris, il risque d'être tué sur place. Enfin, c'est comme ça qu'ils font eux. Ils sont étonnés quand on les fait prisonniers. Je ne sais pas si vous savez ça. Bon. Je vais vous raconter un... Et je vais vous dire le fond de ma pensée. Ce n'est pas en tuant quelques terroristes qu'on va résoudre le problème. Il faudrait les tuer tous. C'est tout. Si déjà il s'agit de tuer. Vous comprenez le problème? Donc ça ne change rien. Ça ne résout pas le problème. C'est une espèce de vengeance psychologique, de satisfaction de quoi? Begin, il voulait faire passer la gaffe énorme qu'il a faite de rendre 76 terroristes pour la vie d'un soldat israélien. Qui aurait pu aussi mourir comme un martyr, d'autre part. Donc, on en a eu beaucoup. Et les martyrs, c'est en là-bas, en ascenseur. Il n'y a pas de temps même. Et moi, j'ai fait la guerre, 3 ans et demi au front. Si vous voulez savoir, je sais de quoi je parle. Un soldat, c'est un soldat. Et le problème, c'est que. Il faut savoir qu'est-ce que c'est que la réalité de la vie. Bon. Je vais vous raconter un midrash. Et quand le moment est arrivé pour Moïse de quitter ce monde, Dieu a envoyé l'ange de la mort pour reprendre son âme, pas contre le Midrash, et l'ange de la mort n'arrivait pas à s'approcher de Moïse. Il dit, je veux pas. Et alors, imaginez l'ange de la mort avec la Neshama de Moïse, il avait peur. L'ange de la mort. Alors il retourne chez Dieu et il dit, je t'en prie, écoute, fais quelque chose, je ne peux pas faire mon travail. Alors... Et d'ailleurs, c'est un des problèmes dans l'étude traditionnelle. Nous avons une règle, en mita velo avon, clair, il n'y a pas de mort sans qu'il y ait une faute. Moïse n'a pas fait de faute. Et on cherche partout quelle faute a pu faire Moïse puisqu'il est mort. Bon, il n'est pas mort comme tous les hommes, il est monté au ciel, peu importe. Il est plus de ce monde. Alors, en fin de compte, Dieu propose à Moïse plusieurs fautes qu'il aurait faites. Et Moïse démontre, de par sa connaissance de sa Torah, que ce n'est pas des fautes. À la fin, Dieu lui dit, ben voilà, tu vas laisser l'ange de la mort prendre ton âme parce que tu as fait une faute grave, tu as tué l'Égyptien. Alors Moïse qui répond, comment? Moi j'ai tué un Égyptien, mais toi tu les as tués tous. Au passage de la mer Rouge, il les a tués tous. Il dit, comment? Moi j'en ai tué un, toi tu les as tués tous. Alors Dieu répond, il y a une différence. Moi je peux les ressusciter, toi pas. Alors il a dit, d'accord. En réalité, je veux dire en quoi c'est grave. Parce que énormément de gosses sont morts parce que les états-majors israéliens, pendant 30 ans, n'ont pas voulu livrer des otages. Par exemple, les gosses de Mar-a-Lot. Et alors, le gouvernement israélien rend. Le sacrifice, et c'est pas que les gosses de Mar-a-Lot, il y en a eu des quantités, de tous ces gens qui sont morts parce qu'on n'a pas voulu rendre des otages, non seulement sans signification, mais absurde, parce que ces mêmes assassins, on les renvoie avec les honneurs de la guerre. Vous voyez le problème? Donc il a fait une gaffe monumentale. Il est probable que son gouvernement va tomber à cause de ça. C'est pas la crainte qui fera tomber, c'est de là-haut que ça se décide. Et alors, pour compenser ça, une gaffe encore plus énorme. La seule gloire qu'on pouvait avoir devant l'opinion publique d'en haut et d'en bas, et Dieu sait qu'on a une opinion publique chargée, c'est de dire en Israël il n'y a pas la peine de mort, même pas pour les terroristes. Alors maintenant, il va imaginer le pas de mine. C'est une chose très très grave. D'autant plus que je dis ça n'a aucun sens. Même du point de vue, quoi, prémunir d'autres attentats, ils s'en foutent. Et vous savez pas qu'est-ce que c'est un combattant, un fédaïne pour l'islam, il sait qu'il va tout droit au cabaret d'en haut. Alors il cherche ça avec loi, kamikaze. Comprenez bien le problème. C'est une gaffe monumentale. Ça, c'est un raisonnement européen sur un problème d'Israël. Vous comprenez ? Il fallait qu'il demande conseil à son rabbin.
C'était donc que ça vient justement de Gouvernement Begin, une attitude pareille.
Mais oui, non, mais il y a longtemps que Begin, on se. C'est un autre problème. Il y a une espèce de manifestation de mœurs politiques inquiétantes. Quand un gouvernement est très dur en parole et mazébitourim et renonce en acte, c'est très grave. Voilà. Ça veut dire que on arrive à un stade où c'est efker, comment dire,
hein,
abandon.
Non, c'est comment dire, il n'y a plus de règles. On ne peut plus avoir confiance.
Le
chaos. On ne peut plus avoir confiance en n'importe quoi. Parce que dès qu'un homme politique arrive à ce genre de mentalité, alors quand il dit quelque chose, je ne ferai pas, ça veut dire qu'on peut être sûr que le lendemain il va le faire. Alors à ce moment-là, s'il n'y a pas une révolution, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais il y aura une révolution. Vous comprenez le problème? À partir du moment où. Je vais vous donner un exemple. Une bonne partie de la Knesset aujourd'hui a dit. Et des partis de la coalition, si nous pouvions, nous voterions contre. Mais on ne peut pas, il y a la discipline gouvernementale. Je ne sais pas si vous réalisez. Le sort du pays dépend d'une fiction qui s'appelle la discipline gouvernementale. Et pour garder son poste à la Knesset ou ailleurs. Alors, quand un pays arrive, surtout Israël, à une situation pareille, vous verrez que dans quelques mois, ça va éclater, je ne sais pas comment, une révolution ou autre chose, mais ça ne peut pas durer longtemps. Est-ce que c'est clair? Là, c'est une gaffe monumentale. C'est-à-dire qu'il y avait une espèce de rectitude morale des gouvernements israéliens jusqu'à présent sur ces problèmes. Elle a été balayée de. Et ça, c'est très grave.
On est tombé dans le système alors qu'on avait étudié au début la ville, enfin le.
Ah oui, ah, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais, c'est-à-dire, on est arrivé au point où, je veux dire, Begin a été élu. Parce qu'il n'avait jamais menti. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Dans toute sa carrière politique, en tant qu'opposant, il n'avait jamais menti. C'est pour ça qu'il a été élu, finalement. Or, depuis qu'il est élu, il passe son temps à mentir. Et ça c'est grave. Je pourrais vous... Enfin, nous avons dans... les archives des journaux sont pleines de cela. Que le seul homme politique qui n'a jamais menti, c'était Begin. Et puis... C'est devenu tout le contraire. Par exemple, le ministre de. Sarah Bidarbet, comment on appelle ça? Le ministre de la Défense, Weizmann, a dit: mais de toutes les façons, on a demandé leur avis aux responsables de la sécurité. Et ils ne se sont pas opposés. Dès que ça a paru dans les journaux, les responsables de la sécurité ont fait savoir qu'ils se sont opposés. Alors, je ne sais pas si vous rendez compte. Non, mais il n'y a pas de doute, c'est une espèce de mégalomanie qui fait que finalement, ça ne peut pas durer longtemps. C'est exactement dans l'histoire d'Israël, la période de Shaoul avant la période de David. Vous vous rappelez de ce que ça représente, Shaoul avant David? Ben, c'est tout à fait.
Est-ce qu'il ne cherche pas par là à démentir son passé qu'on lui prête de terroriste?
Certainement, mais ça nous fait une belle jambe.
Non, je ne justifie pas. C'est grave.
Certainement. Et ça me rappelle une histoire que vous avez peut-être racontée, oui, à propos de la Shoah. Je vous ai parlé du docteur Minkowski, qui d'ailleurs est mort depuis. Son fils est devenu un grand spécialiste de.
Hein?
Et que j'ai connu personnellement. Un colloque, un psychiatre goy, s'était levé pour dire: mais mon cher confrère, il est bien évident qu'Hitler était fou. Alors Minkowski qui lui répond avec beaucoup d'humour et un accent russe épouvantable, Il dit, ça nous fait une belle jambe, 6 millions. Il était fou. C'est à peu près la même chose. Alors, Begin passe son temps à dire, mais je suis l'homme de la paix, j'ai fait pour ça, pour la paix, pour la paix, pour la paix, pour la paix. Effectivement, parce que on l'a définitivement. Et entre-temps, si la sécurité est en jeu, la réputation de Begin, ça n'existe pas à côté du sort du peuple juif. C'est-à-dire, s'il faut faire une autre guerre plus terrible à cause des concessions de Begin, eh bien, Begin, il la sentira passer. Vous comprenez ? Quand on est sûr de son bon droit, alors on n'a peur de personne. Quand on commence à avoir peur des Américains, c'est qu'on est déjà plus sûr de son bon droit. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus. Le gouvernement a peur de dire non aux Américains quand les Américains disent on ferme le pétrole. Qui ferme le pétrole ? Vous comprenez ? Ou bien on ferme comment on dit ça ? Les crédits. Eh bien, qui ferme les crédits ? C'est ça qui est grave. On veut vivre en niveau de société de surconsommation alors qu'on est une citadelle assiégée. Vous comprenez le problème ? Bon, mais rassurez-vous, ça ne peut pas durer longtemps.
Ça, c'est qu'on a tout fait pour copier les pays européens.
On peut le dire de cette manière. Tu vas faire du racisme, tu vas dire qu'il y a trop d'Européens en Israël, on le sait déjà.
En tout cas, Israël a tout fait pour être commun.
Comment ?
Le pays a tout fait pour être commun, pour vivre commun, pour les unités, pour avoir le même...
Pas le pays, les Européens.
Alors, vous y avez dit, il faut sortir les juifs de Galilée, c'est un but de la même chose.
Pour le moment, on est dans le stade de la raloute. Et ça râle drôlement. La raloute, c'est vrai, c'est la raloute ?
C'est la rime.
Avec un rime. Hein.
C'est
la
question.
J'entends. Il n'est jamais venu, il viendra.
J'aurai la résurrection du mort.
Ah oui, j'ai pas dit quand.
Non, vous n'avez pas dit quand. La question est,
qu'adviendra-t-il
des gens qui sont vivants ?
Eh bien, ils sont la génération glorieuse qui rentreront vivants, mais il n'y en aura pas beaucoup. Mais qui rentreront vivants dans le temps de la résurrection. Vous ne posez pas trop de questions, parce que...
Le décalage entre le Olam Haba, la Triat Emetim, c'est long. C'est...
Je ne peux pas exagérer. Bon, et vous allez tout ranger. Et demain matin, 9h, c'est pas 9h05. Hein. C'est clair.
On a Madame Guerre.
Et alors ?
Alors, mais c'est devant moi. Alors, mais ça va pas se passer au même moment.